Laudetur Jesus Christus.
Les premières épreuves des Jeux Olympiques ont commencé aujourd'hui à Tokyo. Hier soir, c'est dans un stade quasi vide que les athlètes ont défilé. Au Japon, l'ambiance n'est pas à la fête à cause des craintes liées à la Covid. Funérailles hier à Haïti du président Jovenel Moïse, assassiné le 7 juillet. Beaucoup de tensions autour de la cérémonie, alors que de nombreuses questions restent posées autour de la mort du chef de l'État. 1,2 million d'élèves libanais privés d'école depuis des mois. Entre Covid et crise économique, l'éducation souffre tout particulièrement. La Caritas Liban, avec l'œuvre d'Orient, tente de maintenir 120 000 élèves dans le système scolaire. Nier le génocide de Srebrenica sera dorénavant interdit en Bosnie-Herzégovine, une décision du haut représentant de la communauté internationale qui ravive les tensions entre les communautés bosniaques et serbes. Retour dans notre dossier sur la vocation toute particulière de l'église monégasque. Nous avons interrogé l'archevêque de Monaco à l'occasion de la visite du secrétaire d'État du Saint-Siège la semaine dernière. C'est à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour, c'est donc parti pour les Jeux Olympiques d'été de Tokyo, 15 jours de sport réunissant la planète entière, un événement attendu depuis un an, depuis leur report à cause de la pandémie de Covid-19, une maladie qui plane toutefois cependant sur la compétition et qui a failli avoir raison au plus grand du plus grand événement sportif mondial. À Tokyo, Philippe Mesmer.
Les Jeux Olympiques de Tokyo ont officiellement commencé. L'empereur Naruhito les a déclarés ouverts au cours de la cérémonie organisée hier, longue de 3h30 et tenue devant moins de 1000 personnes, Covid oblige. Elle a offert quelques jolis moments, comme cette terre dessinée par un essaim de drone dans la nuit tokyoïte et la joie des athlètes des plus de 200 délégations. La flamme a été allumée par la populaire joueuse de tennis Naomi Osaka. Elle s'est embrasée dans une vasque faite d'aluminium recyclée de Fukushima, comme un hommage aux victimes de la catastrophe de 2011 dont ces Jeux devaient marquer la reconstruction. Les différents tableaux et discours, notamment du président du Comité international olympique, Thomas Barr, en faveur des solidarités pour la paix et un monde meilleur, n'ont pourtant pas occulté les oppositions des Japonais à l'événement. Du stade où se tenait la cérémonie se faisait entendre la voix d'opposants appelant à l'annulation des JO. Les Japonais vont donc assister avec un sentiment mitigé aux 339 épreuves de 33 sports, avec l'espoir que cette crise sanitaire ne vienne pas obscurcir l'image d'un événement dont les médias locaux comme du monde s'efforcent de vanter la réussite. À Tokyo, Philippe Mesmer pour Radio Vatican.
Pas question de copier des modèles étrangers. Le président élu du Pérou, Pedro Castillo, a insisté sur le fait qu'il n'était ni chaviste ni communiste. Nous allons concevoir un véritable modèle péruvien en respectant le cadre institutionnel, a-t-il déclaré hier lors d'un discours devant ses partisans à Lima. Funérailles hier à Cap-Haïtien du président assassiné Jovenel Moïse. La cérémonie a été placée sous haute sécurité, les tensions dans le pays restant très fortes. Ces obsèques ont eu lieu alors que de nombreuses questions restent posées sur les raisons et les auteurs de l'assassinat qui a aggravé la crise politique que connaît Haïti. Retour sur ce dernier hommage avec Franz Emmanuel.
Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Les mots de Martine Moïse lors des funérailles de son mari à Cap-Haïtien, la ville d'origine de Jovenel Moïse. Un enterrement en présence des membres du gouvernement, de délégations étrangères et dans un climat plutôt tendu. Les obsèques du président assassiné ont été une ultime occasion de démontrer à quel point Haïti est divisé. Des policiers déployés dans cette ville du nord du pays n'ont pu empêcher un déchaînement d'agressivité. Des tirs d'armes à feu ont été entendus au moment même de la cérémonie. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes, ce qui a fait fuir des personnes venues à la cérémonie. Haïti divisé encore quand les habitants de Cap-Haïtien ont pris à partie les autorités port-au-princiennes. Jovenel Moïse, 5e chef d'État originaire du Nord, avoir été assassiné dans l'Ouest, là où se trouve la capitale. Il n'en fallait pas plus pour marquer davantage la ligne entre Port-au-Prince, qui concentre le pouvoir, et le reste du pays. Fort-de-France, Franz-Emmanuel, Radio Vatican.
Les mutineries de mercredi dans des prisons équatoriennes ont causé la mort de 27 détenus. Dernier bilan, 57 personnes ont par ailleurs été blessées, dont 8 policiers et une policière a été violée. Après ces émeutes carcérales, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans le système pénitentiaire. 100 millions de dollars, c'est la somme débloquée par la Maison-Blanche pour faire face aux urgences migratoires liées à l'avancée des talibans en Afghanistan. Entre autres, celle des interprètes de l'armée américaine qui pourraient demander un visa pour rejoindre les États-Unis. Signe de l'inquiétude concernant les récents succès des talibans, le Canada lui promit d'accorder l'asile aux Afghans qui ont collaboré avec lui. Quant au Tadjikistan, voisin de l'Afghanistan, il se prépare à accueillir 100 000 Afghans. Parallèlement, une trentaine d'ONG ont appelé l'Europe à arrêter les expulsions d'Afghans. Conséquence de la crise globale qui frappe le Liban, plus de 4 millions de personnes, dont 1 million de réfugiés, risquent de ne plus avoir accès à l'eau potable au Liban, selon l'UNICEF. Dans le domaine de l'éducation, plus de 1,2 million d'enfants ne sont pas scolarisés depuis le début de la pandémie de Covid-19. L'année dernière, l'Œuvre d'Orient et l'ambassade de France au Liban avaient mis sur pied un projet de 1,8 million d'euros pour aider 113 écoles. Cette année, avec le concours de Caritas Liban cette fois, l'opération est élargi pour ramener 120 000 enfants dans le giron de l'école. Le père Michel Abboud, président de Caritas Liban, revient sur cet objectif.
L'objectif de ce programme, de faire entrer 120 000 élèves à l'école. Que veut dire entrer? Parce qu'ils sont en risque de laisser les écoles parce qu'ils n'ont pas la possibilité de continuer de payer leur scolarité dans les écoles privées et surtout les écoles catholiques. Nous sommes dans une situation tellement difficile au Liban. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la valeur de leur salaire parce qu'un salaire qui était de 1 000 dollars est devenu 100 dollars. Donc, ils ne peuvent pas payer la scolarité des enfants. Et une fois que la scolarité des enfants ne sont pas payées pour les écoles, donc la direction de l'école ne peut pas payer les salaires des professeurs. Donc l'école doit fermer ses portes. Cette année, 11 écoles catholiques ont fermé leurs portes parce qu'ils ne peuvent pas continuer de payer les salaires des professeurs. Il y en a des dizaines, des centaines de professeurs qui ont perdu leur travail.
Le père Michel Abboud, président de Caritas Liban. Pénurie d'eau dans le sud-ouest de l'Iran. Des manifestations ont lieu depuis plusieurs jours. 4 personnes ont été tuées lors des heurts avec les forces de l'ordre. Les provinces du Khuzestan et de l'Orestan sont particulièrement concernées. Face à l'ampleur de la colère, le guide suprême de la révolution, Ali Khamenei, a exhorté hier les protestataires à ne pas faire le jeu des ennemis. En Inde, les pluies torrentielles ont-elles causé la mort d'au moins 76 personnes, selon un dernier bilan. La mousson dans l'ouest du pays a provoqué des glissements de terrain, des inondations et des éboulements d'édifices. 59 personnes sont portées disparues. La Sierra Leone, à un pas de l'abolition de la peine de mort. L'Assemblée nationale l'a votée hier. Ne manque plus que la promulgation de la loi par le président de la République. Les peines capitales seront dorénavant remplacées par une peine d'emprisonnement à perpétuité. La dernière exécution capitale a eu lieu il y a une trentaine d'années. Nier ou minimiser le génocide en Bosnie sera dorénavant interdit. La question, plus de 25 ans après la guerre dans l'ex-Yougoslavie, n'est pas banale. Elle oppose toujours les communautés serbes et bosniaques, qui avec un élu de la communauté croate se partagent le pouvoir en Bosnie-Herzégovine depuis les accords de Dayton en 1995. La décision d'interdire le déni de génocide a été imposée hier par le haut représentant de la communauté internationale en Bosnie, l'Autrichien Valentin Sko. Elle réveille les tensions. Les détails avec Jean-Charles Puzolu.
Valentin Inzko, qui quittera son poste à la fin du mois, a donc pris ses responsabilités hier en imposant un amendement bloqué depuis des années par les députés serbes. Amendement avec entrée en vigueur immédiate et qui décrète l'interdiction de nier ou de minimiser le génocide. Si la décision du diplomate autrichien est saluée d'historique par la communauté bosniaque musulmane, dont les blessures liées au massacre de Srebrenica lorsque 8000 des leurs furent abattus en juillet 1995 sont aujourd'hui encore douloureuses, le représentant serbe de la présidence collégiale de Bosnie, Mirolad Dodik, ne fait pas marche arrière. Selon lui, il n'y a pas eu de génocide. Il se limite à reconnaître un crime grave. Par ailleurs, les Serbes de Bosnie considèrent souvent leurs anciens chefs de guerre et politiques comme des héros, tandis que la justice internationale les a condamnés à la perpétuité pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Conséquence de l'amendement, le parquet bosnien a annoncé qu'il se saisirait immédiatement de toute controverse.
Jean-Charles Puzolu. La première journée mondiale des grands-parents et personnes âgées, ce sera demain, dimanche 25 juillet, au programme de cette journée instituée par le pape François. Une messe célébrée en la basilique Saint-Pierre, présidée par Mgr Fisichella, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Des événements ont également lieu dans les paroisses et une prière officielle a été présentée. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. La messe de demain sera diffusée en direct et commentée en français. Samedi dernier, le secrétaire d'État du Saint-Siège était en visite officielle dans la principauté de Monaco. Il y était pour y célébrer les 40 ans de la convention établissant Monaco comme archidiocèse et permettant une nomination de l'archevêque exclusivement par le pape et non plus par le prince souverain du micro-État. Le cardinal Pietro Parolin a ainsi passé 3 jours sur le rocher pour honorer des liens pluriséculaires entre les deux pays qui partagent de nombreuses caractéristiques communes comme la confessionnalité de l'État. Sur place, Delphine Allaire a rencontré l'archevêque de Monaco, Mgr Dominique Marie David, tout récemment nommé en 2020. Il nous explique la vocation toute particulière de l'Église monégasque, bien au-delà des apparences.
C'est un signe fort qui vient comme illustrer des siècles de relations entre la principauté et le Saint-Siège, tout particulièrement depuis que Monaco est devenu un diocèse à la fin du XIXe siècle, et puis pour le 40e anniversaire de la Convention qui renouvelait ces relations si importantes pour un État dont la religion catholique est la religion d'État.
Quelles sont, diriez-vous, les relations aujourd'hui entretenues entre le Vatican et Monaco et surtout les points de convergence éventuels entre les deux États dans différents domaines ?
Forcément, nos relations sont marquées par la spécificité institutionnelle de notre État qui, selon l'article 9 de la Constitution, stipule que la religion catholique et romaine est la religion d'État. Alors bien sûr, ce n'est pas simplement un article de la Constitution. Notre pays est marqué par son histoire, sa culture, et encore aujourd'hui, de nombreuses traditions marquent cette heureuse convergence, on pourrait dire, au niveau des convictions, et cela s'est marqué par les grandes fêtes, qu'elles soient nationales ou religieuses, qui sont souvent mêlées. Et puis, bien plus profondément encore, c'est comment actualiser cette réalité d'un État qui a voulu maintenir comme fondement de sa vie, de ses institutions, de sa législation, la foi catholique, tout en préservant la liberté de conscience, puisqu'on peut être résident ou monégasque sans être catholique. Donc il faut tenir cet équilibre tout en encourageant à ce que cette réalité ne soit pas simplement une déclaration théorique ou qui pour certains pourrait même sembler anachronique, mais comme un élan pour une vraie mission de témoignage. Oui, c'est donc possible d'avoir un système qui peut sembler un peu d'un autre monde, d'un autre âge, et qui est en phase avec les défis du monde contemporain.
Concrètement, qu'est-ce que cette confessionnalité de l'État apporte, vous l'avez un peu développé, à l'Église, mais aussi à la société, aux institutions monégasques comme atout, comme valeur ajoutée finalement?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est un état d'esprit qui s'enracine profondément dans l'identité de ce pays. Alors, certains qui le découvrent peuvent en être étonnés, pensent en particulier à nos voisins, les Français, dont beaucoup travaillent ou résident ici et qui sont moins familiers de cette articulation. Moi, je pense que c'est un signe qu'on peut, effectivement, dans un esprit de reconnaissance mutuelle, s'enrichir les uns les autres, considérer que l'Église a sa place à jouer, non seulement ponctuellement ou quand il y a une urgence, mais aussi dans la vie quotidienne, d'aller plus loin que l'apparent. Je pense que l'Église a son rôle à jouer ici, en voyant plus que le visible et en servant les personnes, quelles qu'elles soient, puisque nous avons en principauté, et ça se sent très fort dans notre Église de Monaco, une grande diversité et même une mixité sociale qu'on ne peut pas soupçonner. Et aujourd'hui, dans nos communautés, dans nos paroisses, se côtoient des mondes, des réalités qui, normalement, ne devraient pas se croiser. Profond, un regard de foi, même surnaturel, sur la réalité qui nous est confiée, et cette espèce de vigilance intérieure à ce que l'essentiel soit préservé, à ce qu'on ne l'oublie pas, à ce qu'on n'en reste pas à la surface, mais qu'on puisse aller plus profondément dans le service et l'annonce de l'Évangile.
Interrogé à Monaco par Delphine Allaire, Monseigneur Dominique-Marie David, archevêque de la Principauté de Monaco, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera 13h heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente journée à toutes et à tous.